Bonjour.
On a un plaisir de partager la parole de Dieu entre nous. Il manque toujours des prières pour lui demander un peu de stress. Ce soir, le sujet de mon exhortation, c'est de garder les regards sur Christ et sa parole. En tout temps dans notre vie, garder les regards sur Christ et sa parole. Tu vas faire le quoi que le Seigneur consulte l'Éternel à sa parole. Tu veux faire de quoi dans ta vie, dans ton travail, consulte l'Éternel. Tu veux prendre une décision importante. Toujours consulter l'Éternel afin que Dieu soit dans tes décisions. Oui. Normalement, quand on demande à Dieu, puis Dieu est là, ça marche à Dieu. Les projets existent. Puis on sait que la parole de Dieu nous enseigne que les Écritures sont là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous montrer comment grandir. Les Écritures font grandir dans le Seigneur. C'est une instruction pour nous montrer comment grandir dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le Seigneur nous dit ici, faire attention, parce que on sait, on a des grands dans la parole de Dieu qui ont tombé. Aussitôt que leurs yeux ont été en dehors de l'Éternel, ils ont tombé. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que toutes ces choses-là nous servent d'exemple. Dans Proverbe 8, verset 32-33, maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. C'est dans le Proverbe. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
Amen.
Tout ce qui a été écrit, frères et sœurs, c'est pour nous autres aujourd'hui, qui sommes venus enfants de Dieu, comment marcher, quoi faire, quoi pour faire, puis qu'est-ce qui est mieux. Dieu nous donne des exemples dans sa parole. Puis on va commencer avec le début. Le début dans Genèse. On va commencer avec le premier homme que Dieu a créé, Adam. La première femme, Ève. Dans Genèse 3. Dieu a fait un jardin pour Adam et Ève, un jardin d'Éden. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. Puis il nous a dit, vous pouvez tout faire ici. Tout est permis. Mais il y a juste une chose que je ne veux pas passer. Il y a un arbre au milieu du jardin, on ne touche pas. Mais je ne veux pas qu'on prenne de son fruit. Moi, c'est tous les fruits qu'il y a partout, mais pas celui-là. C'est l'arbre de fruit, c'est celui qui est interdit. C'était la condition. Si vous faites ça, tout va bien aller. Mais Satan, à un moment donné, dans le Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il disait à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Comment te rendre bien là? Ça, c'est pas la parole de Dieu, ça, c'est la parole de l'ennemi. Fait que la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, il disait à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, vous pouvez en manger. Mais quand vous voulez aller en manger, c'est que vous allez, vos yeux vont trouver des derniers, en tout cas, vous savez ce qui est arrivé. Ève, Adam ont mangé du fruit. Les conséquences, à soi, Dieu l'a dit, pas en manger, mais ils n'ont mangé. Les conséquences, dans Genèse 3, verset 23, 17, Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, il n'en mangera point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est ta force, et c'est ta force de peine que tu en tireras par l'équipe tous les jours de ta vie. Conséquence, faire ça à la désobéissance. Il y a toujours une conséquence, peu importe. On va aller voir tantôt les grands de la parole de Dieu, il y a toujours eu une conséquence. Puis c'est la conséquence de la désobéissance, mais là, à chaque fois que dans Genèse 23, 23, et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden Et Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ainsi, il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden de chérubins à toi. Dieu a fermé le jardin d'Éden. Là, Adam et Ève, mais il y a celui qui travaille à soi de leur front. Conséquence d'une désobéissance, juste parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait plus et qu'est-ce qu'il y avait là, mais il y avait tout. Frères et sœurs, mais à cause de la désobéissance, on en est où on en est aujourd'hui. Il faut travailler à fleur dans notre front. Après ça, on va y en avoir un autre, Noé. Dans Genèse 6, parce que là, Adam et Ève sont venus travailler, et là, le Seigneur a dit, multiplier la terre, il y a des enfants, il commence à avoir du monde sur la terre, il y a beaucoup de monde, à un moment donné, mais c'est de la méchanceté qui rentre. La méchanceté qui en a en volonté. Dans Genèse 6, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient belles, ils l'ont pris pour femme et pour celles qui les choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront que de 120 ans. Fait que là, l'Éternel a vu Noé. Dieu donnait les instructions à Noé de faire Noé, il a trouvé. Noé est un homme intègre. En passant, intègre veut dire, selon le dictionnaire, honnête. C'est un homme honnête. Il a vu Noé, puis sa famille, Dieu avait un regard favorable sur Noé, puis il a dit à Noé, tu vas donner des instructions, tu vas bâtir un arc. Tu vas bâtir un gros arc pour toi et ta famille, puis les animaux que je vais y mettre dedans. Fait que Noé, il a tout fait, qu'est-ce que Dieu lui a demandé. Il a bâti l'arc, puis il a, dans Genèse 9, verset 1. Noé a tout fait. Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit. Ça, c'est après quand Noé a sorti de l'arc. Noé a bâti un hôtel à Dieu, puis il a offert des animaux à sacrifice. Quand le début fini, Noé et sa famille, comme Dieu, c'est Dieu qui a fermé la porte. L'arc a tout bien dans l'air. Il a été protégé du début, parce que Noé, il a écouté l'instruction que Dieu lui a donnée. Il a bâti de telle grandeur, telle largeur, telle hauteur, faite comme Dieu l'a demandé, et non pas comme l'homme a repensé. Non. On peut-tu rajouter? On ne rajoute rien, il fallait comme je te le dis, ça va marcher. Ça va pas, Noé, si ça va marcher, il a confiance en lui. Amen. Et quand les jours ont arrivé, l'arc a suivi. Lui, sa femme, les animaux que Dieu a choisis, en passant, c'est Dieu qui a mis les animaux à l'arc. C'est pas Noé. Noé, oui, ok, il a écouté ce que Dieu a dit, mais c'est Dieu qui a mis les animaux à l'arc. Là, après ça, l'arc a été déposé. Quand l'arc a revenu sur la terre, en gros, c'est retiré. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Fait que là, Dieu a béni Noé, il a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Puis là, Noé, il a commencé à cultiver, Noé. Puis là, il a planté des vignes. Puis des vignes, c'est ce que ça fait, ça. Ça fait du raisin. Puis du raisin, ça, qu'est-ce que ça fait quand on écrase ça? Ça fait
du bon vin.
Du bon vin. Le Dieu a béni Noé. Il a dit, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Puis Noé, en passant, il a fait une alliance Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit, à chaque fois que tu vas voir l'arc-en-ciel, souviens-toi de moi, je ne le tuerai plus jamais. Le délit. C'est pour toujours, dans Genèse 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Mmh. Fait qu'à chaque fois, frère et soeur, que je vois un arc-en-ciel, je pense toujours à Dieu. J'ai vu ça, ça devait être impressionnant. Mmh. C'est une alliance que Dieu a faite avec elle. Mmh. Avec Noé, tu ne feras plus la terre. Bon. Après ça, dans Genèse 9, verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Il s'est enivré. Il se couvrit au milieu de sa tente. Il but du vin et se découvrit au milieu de sa tente. Qu'est-ce qui est arrivé, frère et soeur? Comment vous pouvez dire ça? Prendre un verre de vin, c'est pas péché. C'est de vider la bouteille dans une soirée qui n'est pas bon. tu fais l'idée, je pense qu'on a tous déjà bu du vin, j'imagine. Moi, toi, j'en ai déjà bu, et si c'est un peu trop, c'est pas agréable. Pour les autres. Tu sais, Dieu dit, prends de tout ce qui se vend, mais pas en premier lieu. Tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mmh. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui disent, pourquoi tu ne veux pas, mais parce que je n'ai pas besoin. Je ne veux pas tomber dans les pièges avec ça. Mais, c'est pas un péché. C'est pas un péché de prendre un petit verre de vin, il n'y a pas de. C'est pas péché. C'est de tourner en rang qui est pas bon. C'est comme dans tout ça, frère et soeur. Fait que là, Noé, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé de Noé, mais son. Ouais. Il est vu du vin, s'en va. Chant, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Ici, il dit qu'il a vu la nudité. Mais c'est arrivé des choses avec son père. Fait que là, quand Noé s'est réveillé, lorsqu'il se réveillait de son vin, il a vu ce qui lui avait fait son fils cadet. Conséquence, frère et soeur, le fils de Cham, celui qui a vu son père, son fils Canaan, mais Noé, il l'a maudit. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de l'esclave de ses frères, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Cham, et que Canaan soit leur esclave. Conséquence, si Noé n'aurait pas fait ça, ça ne serait pas arrivé, ça. Mais ces choses-là nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui, on peut y lire et voir de faire toujours attention. À un moment donné, tu travailles, puis tu peux faire des choses que ça peut éloigner ton frère, ou ça peut être un scandale avec ton frère ou ta soeur. Fait qu'il faut toujours faire attention, frère et soeur. Comprendre qu'est-ce que Dieu nous donne, qu'on s'en sert pour la bénédiction de chacun et non pour soi-même qui dit, ben écoute, moi, là, j'en ai assez, là, je viens de sauver ma famille, du déluge, là, puis là, je prends les coups à soi, puis conséquence de ça. On aura, peu importe le travail dans le Seigneur, on va toujours avoir des luttes, puis on a toujours besoin de l'Esprit de Dieu en nous faut faire attention à tout ce qu'on fait. Pour justement ne pas être une vieille appartement et qu'il arrive des choses qui ne sont pas agréables. Fait que ça, c'est arrivé en Noé. Noé, mais c'est ça. Si Noé, il y aura, ben, tu sais, il y aura quand même une voix pour le, sa vie, puis tout ça, plutôt, puis, tu sais, dire merci Seigneur, mais non, il s'en est servi pour le contraire. Il y en a trop, puis. Fait que c'est ça, ça a été bénéfique. Au contraire, ça l'a emmené au péché, puis ça a fait que Canaan est devenu esclave de ses frères. Ben, c'est ça qui arrive, pour faire toujours attention à ce qu'on fait. Dieu fait une alliance avec Noé et sa famille en Genèse 9, verset 13, dans le ciel. Noé commence. Oui, c'est ça. Après ça, on va aller voir Job. Job aussi, c'est un grand pour moi, c'est tous les grands, ça, frère et soeur. Dans le Seigneur, là. Job, il était un homme honnête, intègre, il aimait Seigneur. Et on nous dit dans ben Job au début, il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 frères de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. C'était quelqu'un de grand, là. C'était. Ses fils allèrent les uns chez les autres, et ils donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient les trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché? Ils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Puis là, ben, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Là, Satan était voir Dieu, puis là, il a tenté. Il dit: laisse-moi dire Job, là, puis je m'envoie te brosser un peu, tu vois qu'il va te. Mais Dieu aimait Job. Job, il n'y a pas. À un moment donné, on sait tout ce qui est arrivé à Job, puis là, Job m'a donné qu'il en avait peut-être d'autres. Tu sais, c'est quelque chose que j'en avais dit, frère et soeur, là. À un moment donné, Job, là. Allez-vous lire. Job 31. J'avais fait un pacte. C'est Job qui parle. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quel port Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'était pas pour le méchant. Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Tu sais, Job, il essaie de se justifier ici, là. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Écoute, moi, je suis un saint-ange, là. N'a-t-il pas compté tous mes jours? Si j'ai marché dans le mensonge, et si mon pied a couru vers la faute, que Dieu me pèse des balances justes et reconnaîtra mon intégrité. Oui, tu peux être tel, tu peux être en maître, mais tu es pécheur pareil. C'est ça que Dieu va essayer de montrer à Job. Dans tout ce qui est arrivé. Après ça, si vous pouvez lire, si vous voulez, tout le chapitre 31, puis au verset 35, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. » Mais le Tout-Puissant, il va y répondre. On va aller dans Job, verset 42. Oui, au verset 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:
Qui est
celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interroge comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu dit ça à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le corbeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Là, si vous lisez tout le long, vous allez voir tout ce que Dieu a fait, ce qui répond à Job. À un moment donné, ok, Job. Puis au verset, si on va au chapitre 39, verset 34, aller à 38, l'Éternel s'adressa à Job. Et à Job, l'Éternel s'adressant à Job dit: Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Il parle à Job. Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Ou là, Job il répond. Job répondit à l'Éternel et dit: Voici, je suis trop peu de choses que tu répliquerais. Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je répondrai plus. Deux fois, je ne rajouterai rien. Après ça, Dieu a continué de parler. L'Éternel répondit à Job, là, vous lirez, il parle des animaux et tout ça. Ils sont là dans Job chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, après que tu tues, il a dit ça, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je m'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit, en tout cas, là, la colère de l'Éternel est accomplie. Il subitement des conseils à Job, mais Job a prié pour eux autres, puis l'Éternel les a pardonnés. Puis là, Job, il s'est reconnu comme pécheur, puis écoute, faut pas que tu es millionnaire, que tu as tout, puis même que tu attends Dieu, que c'est toi qui as fait ça. C'est tout Dieu qui t'a donné.
Oui.
L'homme n'est que poussière, frère, ça. On n'est que poussière. C'est tout Dieu qui nous donne. On a des véhicules, on a des jouets, n'importe quoi. C'est tout Dieu qui nous a donné ça. Oui. C'est pas parce qu'on est. On a travaillé fort. Oui, on a travaillé, Dieu, tu as travaillé à la soie de ton front. Mais Dieu m'a donné la santé pour travailler. Oui. Puis au travers de ça, Dieu m'a béni. C'est de Dieu. J'ai rien à part de ça. C'est tout de Dieu. Fait que c'est ça qu'il fallait que Job comprenne. Même si tu as tout, c'est Dieu qui t'a tout donné. C'est un grand temps. Mais tu sais, Pastor Daniel, l'autre fois, il a prêché, il a parlé du jeune homme. Que faut-il que je fasse, Seigneur, pour. Et la vie éternelle, bien Dieu dit, observe tel commandement, tu sais, j'aimerais. Il dit, j'ai tout fait ça. Mais Jésus savait que cet homme-là, il y avait de l'argent, le tarif. Bien, il dit d'abord, il dit, Jésus, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, j'avais ça, en partant de là. Quand le jeune homme a dit, j'ai suivi, Seigneur, tout ce que tu m'as dit là, si vraiment cet homme-là a aimé son prochain comme soi-même, il s'approche. Parce qu'il sera en train d'aider. Il sera en train d'aider les misérables, ceux qui ont de la misère. En partant. Je suis certain de ça. C'est pour ça que Dieu lui a dit, mais d'abord, il savait qu'il y avait de grands biens, mais il dit, vends tout ce que tu as pour donner à ton prochain. Mais il s'est fait aller tout triste. C'est impossible d'observer tous les commandements. C'est impossible. Ça prend un Christ. Pour avoir la vie éternelle, ça prend un Christ. L'on a eu l'homme, on va aller voir la soeur Samuel. Pas Samuel, mais David. David, c'est un enfant d'Isaïe. Ça, c'est dans 1 Samuel 16, 1 à 13. Je vais placer mes feuilles, Samuel. Excusez-moi, je vais faire ça demain. Mais ça va, Samuel. Il y a du père de la vie. Bon. Isaïe, il y avait 8 fils. Samuel, c'était le dernier. Le plus jeune. Ne pas s'excuser. David, c'était le dernier, le plus jeune. Puis là, Samuel, mais là, l'Éternel a dit à Samuel, tu vas aller Samuel, 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, bon, ben, quand ça sera plus de pleurer sur Saul, je l'ai rejeté après qu'il n'aurait plus sur Israël. Remplis ta conduite, les voies, et je t'enverrai chez Isaïe, à Bethléem, car j'ai vu parmi les fils celui que je désire pour roi. Fait que Samuel, il dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Fait que Samuel a été choisi pour oindre David pour qu'il devienne roi sur Israël. Fait que Samuel, puisque l'Éternel avait dit, il alla à Bethanie, les anciens de la ville, accourus et effrayés au devant de lui, il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, un fils d'Isaïe, certainement le nom de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Mais l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel n'a pas choisi. Parce que Samuel, c'est que ça va être sûrement lui, c'est un grand guerrier, c'est un. Mais non, c'est pas moi que ça marche. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Fait qu'Isaïe appela Abinadab, Isaïe, il voulait absolument qu'un de ses fils devienne, c'est pas lui non plus. Dieu dit non, c'est pas lui. Après ça, après tout avoir passé, sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il en reste encore. Il reste encore le plus jeune. Mais il se pèse des brebis. C'est rien. Il se pèse des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher comme nous ne le serons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoyait chercher Samuel, voilà ce qui est arrivé, Samuel est arrivé, puis l'Esprit de l'Éternel, il prit Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui que l'Éternel a choisi, c'est David. Samuel, il l'a comblé, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Ramah. C'est le dernier d'Isaïe, qui a été choisi, par l'Éternel. Et à un moment donné, si on lit l'histoire, Saul, c'est un grand guerrier, puis il était en guerre avec les Philistins, Goliath. Enfin, on a tous entendu parler de Goliath. Puis il était avec tous les trois frères d'Isaïe, étaient avec Saul, puis ils ont peur de Goliath. Ils en ont peur. Goliath, bien sûr, l'Éternel, bien sûr, Israël. Puis à un moment donné, mais Isaïe, il dit à son fils, il dit à David, il dit, hey, parce que David, il est retourné faire des brebis. Il est retourné faire des brebis à son père, puis là, ben, Isaïe dit à son fils, il dit à David, hey, va voir, j'entends parler de mes fils, ouais, comment ça va, ça va, ils ont de la misère dans la guerre, puis va prendre des renseignements sur mes enfants. À un moment donné, mais David, il est parti. On voit Isaïe voulait des nouvelles de ses fils et l'envoya à David. Dans 1 Samuel 16, 20. David se leva de bon matin, il laissa ses brebis à un gardien. Il n'a pas parti de même, il a laissé ses brebis à un gardien. Pris sa charge. Il est parti comme Isaïe l'avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp de l'armée, il marcha pour se ranger en bataille et poursuit, il poussait des cris de guerre. Il y a l'armée poussait des cris de guerre. Là, il arrive un moment où Goliath il insulte l'armée de l'Éternel, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Puis là, David, il entend ça, là, fait que là, il va prendre des nouvelles de ses frères, de ses frères. Puis, tu fais ça, toi, là, puis tu t'as pas d'affaire. En tout cas, il y en a un qui est en haut, juste là. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu, ça, c'est dans... au verset 28, frère et soeur de 17-28. En tout cas, on lit l'histoire. Fait que ben là, tout le monde a peur de Goliath. Fait que là, David dit moi date. Là, sauf les familles David chez eux, au verset 33. Sauf dit à David, tu peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Bon. Tu es un enfant. Vous voyez dans le Nouveau Testament, Jésus, à un moment donné, il dit, il repoussait les enfants. Puis Jésus disait, non. Laissez venir en moi les petits enfants parce qu'il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. David, c'est comme un enfant, ça. Il a vu comment Dieu avait agi avec. Puis il avait sa confiance totale en Dieu, en l'Éternel. Puis il savait qu'il pouvait battre le Goliath. Pas David, il savait que Dieu l'avait battu pour lui. Parce qu'il avait une confiance. Puis David dit à Saul, son serviteur faisait fête des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en lui, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Père de sable. Je lui entends ici à toi. Il y a un ours. Il a faim, il y a une brebis dans la bouche. D'essayer d'aller y enlever. Non, non, pensez-y, là. Mais David, il l'a fait. C'est comme un enfant. Il savait le but en arrière. Au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en fera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Puis l'Éternel, David, écoutez, il a dit, tu as vu comment que j'allais toucher l'autre, mais regardez ce qu'il dit David au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. C'est l'Éternel, pas David qui a tué l'ours. David a tué l'ours. C'est l'Éternel qui a tué l'ours. Mais vraiment, c'est celui de David. Oui, mais tu sais, c'est un homme ordinaire oublié ça. Même que tu me devrais gaspiller quatre. Un jour, un million. En tout cas, c'est David avait une confiance aveugle en Dieu. Fait que l'autre, bien sûr, il dit d'abord, il dit là, je vais couvrir cette entrée. Je vais prendre mes vêtements. Je vais prendre mon amour, puis tout ça, puis tu vas, ok, on va t'essayer. David a essayé ça, puis il dit, oh non. Il a tenu ça à terre. Frère et sœur, si tu veux faire le pas pour le Seigneur, fais livre ce que Dieu te donne. Prends pas la vie à l'autre. Fais livre comme toi, Dieu te le montre, puis il te dit de le faire. Si tu cherches à prendre, à faire comme. Tu sais, je peux pas être comme Frère Michel, je peux pas être comme Frère Bezou, je suis comme Dieu me montre. Fais avec ce que toi, t'as, qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et non, cherche pas à prendre l'amour de l'autre. Vas-y, c'est l'amour que Dieu t'a donné. Puis c'est ce que David a pris. Qu'est-ce qu'il y avait comme amour? 5 pierres et une femme. Puis c'est une pierre qui a tué le Goliath avec la femme. La pierre représente Christ. C'est elle. Fait que frère et soeur, il était là, avec ma mère. David avait une confiance. Mais David n'a pas toujours fait ce qui plaît à l'Éternel. Malheureusement. À un moment donné, David, mais tu sais, David, il est devenu un grand guerrier. Puis là, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, les femmes criaient, David a tué ses 10 000! Saul en a tué 1 000! Ça y a-tu monté en tête, ça, un petit peu? Saul est devenu jaloux, c'est sûr. Mais David, c'est pas David qui a tué ses 10 000, c'est David accompagné de Dieu. Mais il utilisait ça, puis là, mais c'est en chacun un, puis là, mais moi aussi. Fait que là, ça, il est devenu jaloux, mais Dieu était avec David. Mais David n'a pas toujours eu des dieux plus éternels. Dans 2 Samuel, la femme d'Uri. Uri, c'est un ami de David. Puis il travaillait pour David, puis c'était un guerrier. Il allait à la guerre et tout ça. À un moment donné, David se voit tuer deux, puis je ne sais pas, ce soir-là, parce que la lune était belle. Mais il a monté sa couverture chez eux, puis il a vu la femme du lit quand elle parlait. Il l'a trouvé belle. Fait qu'il a envoyé un de ses gardes, va chercher la femme. Il a couché avec. Là, la femme, elle tombe enceinte. Dieu a pris le regard. David a pris le regard sur Dieu quand c'est arrivé. Fait que là, mais là David, ouf, mal à l'aise, hein, est enceinte, puis son mari est en guerre, tu sais. Fait que là, il a donné une vie, puis il a dit, il a tout ça que lui a de sa femme, mais il dit non, il dit, moi, j'ai une job à faire, vous voyez, là, ma femme, mes filles, ma job. Fait que là, David, mais là, il a pas qu'il apprenne ça, fait qu'il a parti ses gardes, il a dit à ses gardes, j'allais vous battre contre les Philistins. Puis même la dernière année, allez-vous-en, puis il dit, mais il va être poigné avec, puis là, il dit, c'est arrivé, puis il dit, il s'est fait tuer. David, le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous le rempart, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous avons touché jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille et étaient sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire car l'épée dévore tantôt l'un tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Au verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Fait que là, on sait qu'est-ce qui est arrivé. David, l'Éternel, il a épargné David, il ne l'a pas tué. Mais il a dit, ton enfant va mourir. Fait que là, David, il a prié, puis David dit à Nathan, au verset 13, dans 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Fait que là, on sait qu'est-ce qui est arrivé, son fils est mort, pas ça, mais. David, il a jeûné, il a prié, pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Il a dit, c'est ça. C'est une conséquence à son péché. Son fils est mort. On a toujours une conséquence, frères et sœurs, à ce qu'on fait. Que tu sois grand ou petit, il n'y a personne de grand de toute façon, mais je veux dire, on parle de David, si tant il avait les regards sur Dieu, ça allait bien. Mais aussitôt qu'il a détourné ses regards de Dieu, puis il a fait quelque chose. Dieu l'a pardonné, mais il y a eu des conséquences à ça. Conséquences. Il y a tout le temps de conséquences au péché, frère et sœur. Au verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, et elle alla auprès d'elle, il coucha avec elle, elle enfanta un fils qui l'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. On va lire, c'est un étonnant que je vais parler, Salomon. Salomon, il était jeune. Puis là, ben, Dieu l'a béni, l'Éternel Dieu l'a béni, puis il a dit, Salomon, je demandais, on voit qu'il allait faire ça. Peut-être qu'il était dans 2 Samuel, 2 Samuel 12, 24. Ok, c'est là que Salomon est au monde. En tout cas, Salomon, il marchait avec Dieu, puis si vous lisez l'histoire de Salomon, Dieu lui a donné pas juste la sagesse, il a donné plus que de la sagesse. Là, on va aller dans 1 roi 3. Parce que Salomon, il a demandé à Dieu, je suis pas bien vaincu, plus jeune, j'ai pas d'expérience, mais au moins la force de gouverner moi le peuple que tu nous donnes, parce que c'est un grand peuple. Puis on va lire le livre. Là, on va voir. OK. Accorde donc à 1 roi 3, verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en plus, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Il y a eu plus que ce que l'Éternel, que ce que Salomon a donné. L'Éternel a donné plus encore, beaucoup. Je ne sais pas si ça lui a monté la tête, mais à un moment donné, Salomon, tant qu'il restait avec Dieu, tant qu'il restait fidèle à sa parole, à ses convenances, tout, il n'y a pas de problème, ça allait bien. Mais à un moment donné, je ne sais pas du tout de savoir la sagesse, là. Salomon était rendu, je pense, il y avait 400 femmes. Mais c'est en plus, c'est des femmes qui étaient cherchées dans d'autres pays que l'Éternel avait interdit. Puis ces femmes-là, il y avait des dieux. Fait que là, au moment donné, Salomon, il s'est détourné de Dieu. Puis il a fait des hôtels, si vous lirez dans la loi, il a fait des hôtels, il a fait qu'est-ce qui déplut à l'Éternel. Fait que, conséquence, mais c'est sûr, ça, frère, ça, ça, le moins, il a tout perdu, qu'est-ce qu'il y avait. Dieu donne la justice, il faut faire attention dans tout ce qu'on fait, frère, ça, dans qu'est-ce que Dieu nous donne aussi. Puis, depuis tant que je suis dans le Seigneur, j'en ai vu des grands tomber. J'ai vu des pasteurs tomber, j'ai vu des diacres tomber, j'ai vu des membres tomber. On n'est pas à l'abri de ça, ni un ni l'autre. Je suis pas ici parce que je suis plus fin, là. Mais si on garde nos yeux fixés à Christ, crucifié, l'Éternel, frère et soeur, Dieu va nous protéger. Mais si à un moment donné, notre intérêt se détourne pour s'en voir vers d'autres choses, Dieu va nous abandonner. Puis c'est pas plus drôle dans le monde. Fait que, si on garde nos yeux fixés sur Dieu, sur sa parole, bien, qu'est-ce qu'on va entreprendre? On va réussir. En attendant, frères et sœurs, qu'on prie les uns pour les autres, pour que Dieu nous garde tous ensemble, puis qu'on n'en perde pas d'autres, puis qu'il ramène ceux qui sont tombés. Puis on a un avantage. Peu importe qui on est, on va pécher. Mais Dieu, on a un avocat, le Père, fidèle et juste, puis à chaque fois qu'on lui demande pardon, il nous pardonne. Amen. Quand Dieu pardonne, il oublie tout. Fait que, frère et soeur, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans le Seigneur, peu importe qui on est, c'est toujours Dieu. Si on garde Dieu tout le temps en premier, on n'est pas plus grand, moins que l'autre, on est tout pareil. Amen. Qu'on garde les yeux fixés les uns sur les autres dans l'amour. Amen. Que Dieu bénisse ça.